L'info Médor sur Chéri avec Leslie Reimenhams. Ce mois-ci, je ne suis pas un menteur.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans l'Info Médor, le podcast qui dévoile les dessous du magazine d'investigation 100% belge. Ce mois-ci, il est question de mensonges, enfin non, plutôt de doutes et de la culture du doute qui tourne autour des jeunes migrants qui arrivent en Belgique. Bien souvent, les autorités s'interrogent sur leurs histoires. Celles qu'ils racontent sont-elles assez bonnes, entre guillemets, pour obtenir des papiers? Sont-elles crédibles? Faut-il les croire et comment le savoir? Dans le studio de Chéri, j'accueille aujourd'hui Sang Sang Wu. Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Sang Sang, votre enquête s'appelle « Je ne suis pas un menteur » et elle se présente sous deux formes différentes. D'une part, vous nous expliquez ce que vous avez découvert, on va y revenir, et de l'autre, vous présentez des lettres qu'un jeune migrant aurait pu écrire aux autorités.
Oui, tout à fait, c'est bien ça. En fait, ce sont des lettres fictives qui ont été écrites librement à partir du témoignage d'un ex-MENA qui souhaitait garder l'anonymat. Et j'ai choisi le prénom Yagin pour, en quelque sorte, rendre hommage à Yagin Kaoita, 14 ans, qui a été retrouvé mort gelé en 1999 dans le train d'atterrissage d'un avion qui venait de Guinée. Et il était accompagné d'un autre jeune homme qui s'appelait Fode Tounkara, qui avait quant à lui 15 ans. Et tous les deux avaient sur eux leur certificat de naissance, leur carte de scolarité, des photos et une lettre expliquant pourquoi ils avaient choisi l'exil malgré le danger. Et à l'époque, moi je me souviens, j'avais 10 ans et je me souviens bien que ce drame m'avait déjà beaucoup marqué. Si j'ai choisi cette forme-là, c'est-à-dire d'ouvrir l'enquête et de l'entrecouper par des lettres qu'un jeune pourrait adresser aux autorités, c'est pour tenter de remettre de l'humanité derrière cet acronyme MENA, qui est très désincarné.
Donc MENA, on rappelle, mineur, étranger, non accompagné.
Tout à fait, c'est ça. C'est très désincarné et en fait... On parle d'enfants, on oublie parfois qu'on parle d'enfants, d'adolescents, de jeunes adultes, bref, des gens très vulnérables de par leur âge, mais aussi de par le parcours qu'ils ont déjà derrière eux quand ils arrivent sur le sol belge. Alors j'aimais aussi l'idée de ces lettres parce que parfois, face à une machine institutionnelle qui est froide, qui se dresse devant eux comme un mur, et bien des jeunes tentent le tout pour le tout et essayent de parler aux personnes qui sont derrière les institutions.
Mmh. Alors cette enquête, elle révèle le chemin par lequel il faut passer hein, quand on est demandeur d'asile et qu'on arrive en Belgique. Une première chose à savoir, c'est que la prise en charge va varier en fonction de l'âge du jeune. Il va soit être considéré comme MENA, donc mineur étranger non accompagné, à protéger, soit comme majeur, mais sans titre de séjour qui va devoir se débrouiller tout seul. Mais toute la difficulté d'abord, c'est de faire valoir son âge.
Oui, c'est ça. Quand un jeune demandeur d'asile arrive en Belgique sans parents ou sans tuteur légal, il doit être signalé et identifié comme MENA. Mmh. Et s'il est reconnu comme tel, ben, on lui attribue un tuteur qui devient son représentant légal. Il doit être hébergé dans une structure distincte de celle réservée aux adultes. Il a un accès à l'éducation. Il doit théoriquement être accompagné vers l'âge adulte. Mais il faut savoir qu'en fait, les jeunes qui se disent mineurs ne sont pas toujours reconnus comme tels. L'âge des déclaré, il est de plus en plus remis en question par les autorités belges. Et donc, par exemple, en 2021, un doute a été émis pour 68% des jeunes.
D'accord.
Et pour déterminer l'âge, leur âge aux jeunes, les autorités réalisent des tests osseux qui sont très contestés. Alors, il s'agit d'un triple test, une radiographie du poignet, de la clavicule et de la dentition. Et non seulement c'est un traumatisme supplémentaire pour ces jeunes qui se disent qu'on ne les croit pas, mais en plus, il n'y a pas de consensus scientifique.
D'accord, donc ce n'est pas forcément fiable, quoi.
Oui, c'est ça, autour de la fiabilité de ces tests. Et pourquoi? Parce que les tables de maturation qui sont utilisées en Belgique, elles reposent sur base d'une population blanche occidentale. Et enfin, l'organisation de ces tests osseux, elle est elle-même très peu encadrée par la loi. Mmh. Il suffit qu'une des autorités, et ça peut même être la police, émette un doute au sujet de l'âge du jeune pour qu'un test médical soit tout de suite effectué.
À noter que si selon ces tests osseux, le jeune a par exemple 18 ans, mais qu'en fait il a déclaré qu'il en avait 16, il sera d'ores et déjà considéré comme un menteur, alors que ce n'est pas forcément le cas.
Bien, en tout cas, il part déjà avec un a priori assez négatif. Non, ce n'est pas forcément le cas parce que, comme je l'ai dit, la fiabilité de ces tests, elle est toute relative. Et il faut savoir aussi qu'en matière de migration, il y a un climat de suspicion qui rend la mise en confiance très difficile. On suspecte les exilés de mentir pour acquérir certains droits. Et eux le ressentent aussi. Par exemple, un jeune m'a dit que, d'après son expérience, les autorités aimaient bien tout ce qui était dramatique. S'il y avait des morts dans l'histoire racontée, ça avait plus de chances de passer. Et donc, on arrive à une situation où des vendeurs d'histoire, entre guillemets, abreuvent les jeunes de récits à prendre par cœur pour, soi-disant, augmenter leurs chances d'être régularisés.
Ça veut dire qu'on les pousse, en quelque sorte, à mentir ou à, du moins, à enjoliver, non, c'est plutôt l'inverse, à empirer leur histoire pour qu'ils aient plus de chances de passer ?
Certains seraient tentés de le faire.
D'accord.
Parce qu'ils savent que les portes sont tellement étroites que pour rentrer, ils vont être obligés, peut-être un peu, d'en rajouter. Et je voulais juste aussi revenir sur le fait qu'il y a différentes raisons qui peuvent expliquer aussi que les jeunes mentent, entre guillemets, ou ont l'air de mentir. Une psychologue m'expliquait par exemple que certains jeunes traumatisés avaient du mal à évaluer la durée des événements. Et un exemple frappant a été celui d'une jeune Congolaise dont la maman était en prison. L'Office des étrangers lui a demandé combien de temps avait duré le trajet jusqu'à la prison et la fillette a répondu 2 jours de bus. Et en face, les autorités ont répondu que ce n'était pas possible, car il n'y avait pas de prison à 2 jours de bus. Mais cette psy me disait que, vu tout l'enjeu relationnel qui était hyper important, hyper fort, si ça se trouve, le trajet n'avait duré qu'une demi-journée. Mais ça lui a semblé très long. Ou au contraire, ça a duré plus longtemps, mais elle était tellement contente de voir sa maman qu'elle en a oublié la durée du trajet.
5-5 mots, vous avez enquêté sur les jeunes demandeurs d'asile qui arrivent en Belgique et sur les raisons qui font en sorte que les autorités acceptent ou non leurs requêtes. Pour ça, ils sont soumis parfois à des tests médicaux, mais aussi à une foule d'interrogatoires. Et là, il y a un véritable paradoxe. Pour prouver que ce sont des enfants, en fait, on exige d'eux de se comporter comme des adultes.
Donc c'est appelé donc des interviews, mais beaucoup de jeunes vivent en effet ce moment comme un interrogatoire de police. Pendant plusieurs heures, on leur demande de raconter leur périple, leur histoire au pays, et ça, ils doivent le faire durant leur parcours à de multiples reprises, et sans omettre le moindre détail, même si certains sont traumatisants. Et beaucoup m'ont dit, j'en ai marre de raconter tout le temps la même chose, pourquoi faire finalement? Et il y a une pression sur eux parce qu'il faut se souvenir de tout, alors que ce sont des enfants qui ignorent complètement, qui vont devoir restituer une histoire, des détails, une fois qu'ils seront arrivés dans leur pays d'accueil. Les questions ne sont pas vraiment adaptées à la maturité qu'on peut attendre d'enfants ou d'adolescents. Par exemple, on leur demande l'âge, la taille de leur mère, les inscriptions sur telle église dans leur village, la couleur de l'avion, s'ils sont venus par ce moyen, etc.
Des questions auxquelles on ne pourrait peut-être même pas forcément répondre.
Tout à fait. Oui.
Pourquoi vous vous êtes attelée à ce sujet ? Pourquoi avoir eu cette envie ?
Assez naïvement, moi, je pensais que tous les jeunes exilés qui se disaient mineurs et qui arrivaient en Belgique étaient crus sur parole et qu'on octroyait la même protection qu'on accorderait à un jeune belge relevant du secteur de l'aide à la jeunesse. Or, j'étais assez surprise et même choquée en fait, de constater que cela n'était pas du tout le cas. Le système considère ces enfants comme des jeunes de seconde zone. J'ai l'impression, alors qu'arriver sur le sol belge, sain et sauf, quand on connaît les difficultés sur le chemin de l'exil, c'est déjà pour moi en soi un exploit. Et on n'accepterait pas, et fort heureusement, que des jeunes belges du même âge soient traités de la sorte.
5-5, selon vous, tout l'enjeu aujourd'hui, c'est d'en finir avec cette maltraitance institutionnelle, comme vous dites dans votre article, qui est creusé, entre guillemets, dans ces jeunes qui débarquent en Belgique, qui créent des traumas à plus long terme. Comment on s'en sort ? Vous voyez des solutions ?
Ça fait déjà plusieurs années que le tissu associatif est inquiet par rapport au système d'estimation de l'âge qui est mis en place en Belgique. Parce qu'on le sait, les estimations de l'âge incorrectes peuvent avoir des conséquences qui sont dramatiques pour la confiance de ces jeunes, provoquer des tentatives de suicide, mettre en danger leur santé physique et mentale. Et les associations, les tuteurs, les parrains, les marraines, bref, toutes les personnes qui gravitent autour des MENA plaident pour qu'on s'éloigne le plus possible de ces tests osseux pour déterminer l'âge d'un jeune, que ça doit être une mesure utilisée en dernier recours, ce qui n'est pas du tout le cas actuellement. Les professionnels de santé mentale disent qu'arracher une histoire à un enfant, ça peut avoir de lourdes conséquences sur son psychisme et que tout simplement, il ne faudrait plus demander à un jeune de construire un récit dans l'unique but de le régulariser. Car pour en faire des citoyens qui sont bien dans leur peau, qui se sentent acceptés de manière inconditionnelle dans leur nouveau pays, eh bien, il faut qu'ils puissent se raconter en toute sécurité.
L'info Médor sur Chéri.
Merci beaucoup en tout cas pour cette sensibilisation, Sang-Sang.
Merci.
Merci d'être passé dans nos studios, les studios de Chéri, d'avoir présenté dans les grandes lignes votre enquête « Je ne suis pas un menteur ». On la retrouve dans le numéro 26 de Médor, celui du printemps 2022. On la retrouve également sur le site medor.com. Quant à nous, on se retrouve dans un mois pour les dessous d'une nouvelle enquête du magazine d'investigation 100% belge.
Une info belge, indépendante et participative, c'est l'info Médor, tous les mois, sur Chéri.